Chapitre 6. La société s'était de nouveau réunie et nos amis se virent obligés de couper court à leur entretien. Quelques moments après, on annonça un courrier qui demandait à remettre une lettre à l'auteur en main propre. Le courrier fut amené. C'était un homme robuste et de bonne mine. Sa livrée était riche et de bon goût. Wilhelm crut le reconnaître et il ne se trompait point. C'était le même homme qu'il avait envoyé naguère à la poursuite de Philine et de la prétendue Marianne, et qui n'était pas revenu. Il allait lui adresser la parole quand l'auteur, qui venait de lire la lettre, dit au courrier, d'un air sérieux et presque mécontent, « Comment se nomme ton maître ?» Le courrier répondit d'un ton réservé, « C'est, de toutes les questions qu'on pourrait m'adresser, celle à laquelle il m'est le plus difficile de répondre. J'espère que la lettre vous dira le nécessaire. Je n'ai reçu aucune commission de vive voix. » Quoi qu'il en soit, dit l'auteur en souriant, puisque ton maître me montre assez de confiance pour m'écrire une pareille facétie, il sera chez nous le bienvenu. Il ne se fera pas attendre longtemps, dit le courrier en faisant la révérence, et aussitôt il s'éloigna. « Écoutez, dit l'auteur, la folle et ridicule missive de notre inconnu. Comme la bonne humeur est de tous les hôtes le plus agréable, lorsqu'elle se présente et que je la promène partout avec moi comme compagnon de voyage, je suis persuadé que votre gracieuse seigneurie ne verra point de mauvais œil la visite que je me suis proposé de lui faire. » Je me flatte au contraire d'arriver et de me retirer en temps opportun, à la complète satisfaction de toute l'illustre famille dont j'ai l'honneur d'être, etc., etc. Comte de la Limace. Voilà une famille nouvelle, dit l'abbé. C'est peut-être un comte de la création du vicaire. Le secret est facile à deviner, dit Nathalie. Je gage que c'est notre frère Frédéric, qui, depuis la mort de notre oncle, nous menace d'une visite. Bien deviné, belle et sage sœur, s'écria quelqu'un d'un bosquet voisin. Au même instant, on vit s'avancer un jeune homme d'une figure agréable et riante. Wilhelm eut peine à retenir un cri de surprise. Eh quoi ? Dit-il. Notre blondin, le mauvais sujet. « Je vous retrouve encore !» Frédéric arrêta ses yeux sur Wilhelm et s'écria « En vérité, j'aurais été moins surpris de trouver ici, dans le jardin de mon oncle, les célèbres pyramides si solidement fixées sur le sol de l'Égypte, ou le tombeau du roi Mausolée, qui, à ce qu'on m'assure, n'existe plus. Que vous, mon ancien ami, mon bienfaiteur à tant de titres !» « Recevez mes plus vives et mes plus affectueuses salutations. » Après avoir salué et embrassé tout le monde, il revint à Wilhelm. « Gardez-le bien, dit-il, ce héros, ce général, ce philosophe dramatique. Le jour où nous avons fait connaissance, je l'ai bien mal peigné, et je puis dire, comme on peigne le chanvre. Et pourtant il m'a sauvé plus tard une volée de coups de bâton. » Il est magnanime comme Scipion, généreux comme Alexandre, amoureux aussi à l'occasion, mais sans haïr ses rivaux. Non point qu'il amasse des charbons ardents sur la tête de ses ennemis, ce qui doit être, nous dit-on, un des mauvais services qu'on puisse rendre à quelqu'un. Non, il envoie plutôt aux amis qui lui ravissent sa maîtresse de bons et fidèles serviteurs, afin que leurs pieds ne rencontrent aucune pierre d'achoppement. Frédéric poursuivit de la sorte ses intarissables plaisanteries, sans que personne fût en état de l'arrêter. Et comme personne ne pouvait lui répliquer sur le même ton, il garda la parole assez longtemps. « Ne soyez pas surpris, s'écria-t-il, de ma vaste érudition dans les lettres sacrées et profanes. Je vous dirai comment je me suis élevé à ces belles connaissances. » On aurait voulu savoir quelques détails sur sa vie, et d'où il venait. Mais il ne put arriver. Des maximes morales et des anciennes histoires à une explication intelligible. Nathalie dit tout bas à Thérèse. « Sa gaieté me fait mal. Je gagerai qu'il n'est pas heureux. » Frédéric s'aperçut qu'à l'exception de quelques plaisanteries, par lesquelles Jarnot lui riposta, ses bouffonneries ne trouvaient point d'écho dans la compagnie, et il finit par dire « Il ne me reste plus qu'à devenir sérieux avec ma sérieuse famille. » Et comme, en de si graves circonstances, la somme de mes péchés pèse soudain sur ma conscience, je me résous tutuniment à faire une confession générale, mais dont vous ne saurez pas un mot, mes dignes seigneurs et dames. Ce noble ami, ici présent, qui connaît déjà quelques-uns de mes exploits, recevra seul mes confidences, d'autant plus que lui seul a quelque sujet de me les demander. » Alors, s'adressant à Wilhelm, « Ne seriez-vous pas curieux, lui dit-il, de savoir où et comment, qui, quand et pourquoi ? Où en est, dites-moi, la conjugaison du verbe grec philéo, philo, ainsi que ses charmants dérivés ?» En disant ces mots, il prit le bras de Wilhelm et l'entraîna en l'accablant de caresses. À peine furent-ils dans la chambre de Wilhelm que Frédéric aperçut, sur la tablette de la fenêtre, le petit couteau à poudre avec l'inscription « Pensez à moi ». « Vous conservez soigneusement vos souvenirs, » lui dit-il. « Vraiment, c'est le couteau que Philine vous donna le jour où je vous tiraillais si bien les cheveux. J'espère que vous avez en effet pensé fidèlement à cette belle personne, et je vous assure qu'elle ne vous a pas non plus oublié, et que, si je n'avais pas dès longtemps banni de mon cœur toute trace de sentiments jaloux, je ne pourrais vous voir sans envie. » « Ne me parlez plus de cette créature, » répliqua Wilhelm. « J'avoue que l'impression de son agréable présence m'a longtemps poursuivi, mais voilà tout. » « Fi donc, qui peut renier une maîtresse? Vous l'avez aussi parfaitement aimée qu'on pourrait le désirer. Vous n'étiez pas un jour sans lui faire quelques petits cadeaux. Et lorsqu'un Allemand donne, il aime assurément. Il ne me restait plus qu'à vous l'enlever. Et le petit officier en habit rouge s'en est fort bien tiré. Comment ? L'officier que nous rencontrâmes chez Philine et qui s'enfuit avec elle, c'était vous ? Oui, c'était moi que vous preniez pour Marianne. Nous avons bien ri de votre méprise. Quelle cruauté ! Me laisser dans une pareille incertitude ! Et qui plus est, prendre d'abord à notre service le courrier que vous envoyez à nos trousses. C'est un habile garçon, et dès lors il ne nous a pas quittés. Et j'aime Philine, aussi follement que jamais. Elle m'a si bien ensorcelée que je me trouve, peu s'en faut, dans un cas mythologique, et crains tous les jours quelques métamorphoses. Apprenez-moi, je vous prie, d'où vous vient cette vaste érudition. J'admire l'étrange habitude que vous avez prise de parler toujours par allusion aux fables et aux histoires de l'Antiquité. Je suis devenu savant, et même très savant, de la manière la plus amusante. Philine est maintenant chez moi. Nous avons loué, d'un fermier, le vieux château d'une seigneurie où nous menons joyeuse vie, comme les lutins. Nous y avons découvert une petite bibliothèque choisie, où se trouve une Bible in folio, la chronique de Godefroy, deux volumes du Theatrum Europaeum, la Serra Philologica, les écrits de Griffius et quelques livres moins importants. Quand nous avions assez fait tapage, l'ennui nous prenait quelquefois. Nous essayâmes de lire, et l'ennui revenait plus fort nous surprendre. Philine eut enfin l'heureuse idée d'étaler tous les livres sur une grande table. Assis en face l'un de l'autre, nous lisions tour à tour et toujours des morceaux détachés, tantôt d'un livre, tantôt d'un autre. Ce fut une véritable fête. Il nous semblait être effectivement dans ces bonnes compagnies, où l'on tient pour incivil de s'attacher trop longtemps à quelque sujet ou de vouloir même l'approfondir. Nous croyons être aussi dans ces sociétés bruyantes où l'on se coupe sans cesse la parole. Nous prenons ce divertissement sans faute tous les jours, et nous en devenons peu à peu si savants que nous en sommes nous-mêmes surpris. Déjà, nous ne trouvons plus rien de nouveau sous le soleil. Notre science nous fournit des documents sur tout. Nous varions nos études de diverses manières. Quelquefois, nous réglons nos lectures avec un vieux sablier qui se vide en quelques minutes. À peine l'un a-t-il fini que l'autre retourne l'horloge et commence à lire dans quelques livres. Et à peine le sable a-t-il passé dans le verre inférieur que le premier recommence. Comme cela, nous étudions d'une manière vraiment académique. Seulement, nous faisons nos leçons plus courtes et nos études sont d'une extrême variété. Je comprends cette extravagance, dit Wilhelm, chez un joyeux couple tel que vous. Mais que ce couple frivole puisse rester si longtemps uni, c'est ce que j'ai plus de peine à comprendre. C'est là justement le bonheur et le malheur. Philine ne saurait se laisser voir. Elle ne peut se voir elle-même. Elle a l'espoir d'être mère. Rien de plus disgracieux et de plus ridicule que Philine dans cet état. Quelques jours avant mon départ, elle se trouvait par hasard devant une glace. « Horreur !» dit-elle. « Madame Mélina en personne. La vilaine image. Comme on est défiguré !»« J'avoue, » reprit Wilhelm en souriant, « que ce doit être assez drôle de vous voir ensemble comme père et mère. » « C'est une vraie folie, » dit Frédéric, « que je doive passer pour le père. Elle le soutient et les temps s'accordent. J'étais d'abord un peu offusqué de certaines visites qu'elle vous fit après la représentation d'Hamlet. »«
Quelle visite ?
Vous ne pouvez l'avoir oubliée tout à fait. Le fantôme charmant et très palpable de cette nuit, c'était Philine, si vous l'ignorez encore. » Cette aventure me fut, je vous assure, une dot assez amère. Mais si l'on ne veut pas se résigner à ces choses, il ne faut pas se mêler d'aimer. En somme, la paternité ne repose que sur la conviction. Je suis convaincu, donc je suis père. Vous voyez que je sais aussi à propos faire usage de ma logique. Quant à l'enfant, s'il n'étouffe pas de rire en venant au monde, il sera quelques jours, si ce n'est pas utile, du moins agréable au genre humain. » Tandis que nos amis s'entretenaient gaiement de sujets frivoles, le reste de la compagnie avait entamé un grave entretien. Frédéric et Wilhelm s'étaient à peine éloignés que l'abbé conduisit insensiblement la société dans un cabinet de verdure, et, quand tout le monde eut pris place, il commença en ces termes. Nous avons déclaré d'une manière générale que Mademoiselle Thérèse n'est pas fille de sa mère. Il est nécessaire de nous expliquer là-dessus en détail. Voici l'histoire, que j'offre de prouver et d'expliquer ensuite parfaitement. Madame de passa les premières années de son mariage dans la plus heureuse union avec son époux. Seulement, ils eurent le malheur que les deux premières couches de madame furent très dangereuses et que les enfants vinrent morts au monde. Le médecin déclara que la mère ne survivrait probablement pas à une troisième et qu'une quatrième serait certainement mortelle. Il fallut se résoudre. Les époux ne voulurent pas rompre le mariage, se trouvant trop bien établis dans la société. Madame de chercha dans l'étude, dans une certaine représentation, dans les jouissances de la vanité, une sorte de compensation au bonheur d'être mère. Elle souffrit avec beaucoup de tranquillité le goût de son mari pour une demoiselle à qui était remise l'intendance de toute la maison, qui avait de la beauté et de solides vertus. Au bout de quelque temps, Madame de autorisa elle-même des relations qui mirent dans les bras du mari la mère de Thérèse. Celle-ci continua cependant ses fonctions de gouvernante et montra à la maîtresse de la maison plus de docilité et de dévouement que jamais. Au bout de quelque temps, elle se déclara enceinte et les deux époux s'accordèrent dans le même dessein, quoique par des vues tout à fait différentes. Monsieur de désirait introduire dans sa maison, comme légitime, l'enfant de sa maîtresse. Et Madame de offensé de voir, par l'indiscrétion du médecin, son état divulgué parmi ses connaissances, voulait, par cette supposition d'enfant, se remettre en honneur dans le monde, et par sa complaisance, prendre dans la maison de son mari un ascendant dont elle avait d'ailleurs sujet de craindre la perte. Elle fut plus circonspecte que son mari. Elle devina son désir, et sans lui faire des avances, elle sut lui rendre une explication facile. Elle fit ses conditions et obtint presque tout ce qu'elle demandait. De là ce testament, dans lequel on semblait avoir si peu songé aux intérêts de l'enfant. Le vieux médecin était mort, on s'adressa à un jeune homme actif et adroit. Il fut bien récompensé. Il put même se faire honneur, en publiant et en réparant l'ignorance et la précipitation de son défunt confrère. La véritable mère donna son consentement sans répugnance. On joua très bien la comédie. Thérèse vint au monde et fut attribuée à une marâtre, tandis que la véritable mère, victime de cette supercherie, parce qu'elle releva trop tôt de couches, mourut et laissa son bon maître inconsolable. Madame de avait atteint son but. Aux yeux du monde, elle était mère d'une aimable enfant dont elle faisait parade avec orgueil. Elle était en même temps délivrée d'une rivale, dont elle ne voyait pas la position sans envie et dont elle craignait secrètement l'influence, du moins pour l'avenir. Elle accablait l'enfant de caresses et, en se montrant si sensible à la perte que son mari avait faite, elle sut tellement le gagner dans les heures d'intimes épanchements qu'il s'abandonna, on peut le dire, entièrement à sa volonté. Il remit dans les mains de sa femme son bonheur et le bonheur de son enfant, et ce fut à peine un peu avant sa mort, et en quelque façon avec l'appui de sa fille, devenue grande, qu'il reprit quelque autorité dans sa maison. Voilà sans doute, belle Thérèse, le secret que votre père malade aurait si fort souhaité de vous découvrir. Voilà ce que je voulais vous exposer en détail pendant l'absence de notre jeune ami, qui est devenu votre fiancé par le plus étrange enchaînement de circonstances. Voici les papiers qui prouvent, de la manière la plus rigoureuse, ce que j'ai affirmé. Ils vous apprendront aussi comment j'étais depuis longtemps sur la trace de cette découverte, et ne pouvais cependant arriver avant ce jour à la certitude. Je n'osais pas découvrir à mon ami cette chance de bonheur, car sa douleur eût été trop vive si cette espérance était une seconde fois évanouie. Vous comprendrez les soupçons de Lydie. J'avoue en effet que je n'approuvais nullement la faiblesse de notre ami pour cette pauvre fille, depuis que je prévoyais de nouveau son union avec Thérèse. Personne ne répliqua rien à ce récit. Au bout de quelques jours, les dames rendirent les papiers, sans plus en faire mention. On avait assez de moyens d'occuper la société quand elle était réunie. La contrée offrait tant de charmes qu'on se plaisait à la parcourir, seule ou en compagnie, à cheval, en voiture ou à pied. Jarnot saisit une de ces occasions pour faire à Wilhelm sa commission. Il lui communiqua les papiers, sans paraître lui demander de prendre aucune résolution. « Dans l'étrange situation où je me trouve, répondit Wilhelm, il me suffit de vous répéter ce que j'ai déclaré d'abord en présence de Nathalie, et certes de bon cœur. Lothaire et ses amis peuvent me demander toute espèce de sacrifice. Je dépose dans vos mains tous mes droits à Thérèse. Procurez-moi en échange mon congé formel. Oh, mon ami, je n'ai pas besoin de longues réflexions pour me décider. J'ai déjà observé que depuis quelques jours, Thérèse a besoin d'efforts pour conserver un semblant de la vive tendresse qu'elle m'avait laissé paraître à son arrivée. J'ai perdu son amour, ou plutôt je ne l'ai jamais possédé. » Des situations comme celle-ci, dit Jarnot, s'éclaircissent mieux par degrés, avec l'attente et le silence, que par de longues explications, qui provoquent toujours une sorte d'embarras et d'irritation. « Il me semble au contraire, dit Wilhelm, que cette difficulté peut se résoudre de la manière la plus nette et la plus tranquille. On m'a souvent reproché l'hésitation et l'incertitude. Pourquoi veut-on, maintenant que je suis résolue, faire justement à mon égard une faute que l'on blâmait chez moi? Le monde se donne-t-il tant de peine pour nous former, afin de nous faire sentir qu'il ne veut pas se former lui-même? Oui, laissez-moi bien vite goûter la joie d'échapper à une fausse position, où je me suis jetée avec les intentions les plus pures. » Malgré cette prière, il s'écoula quelques jours, pendant lesquels Wilhelm n'entendit aucunement parler de l'affaire, et ne remarqua non plus aucun changement chez ses amis. La conversation roulait presque toujours sur des questions générales et des choses indifférentes. Chapitre 7. Un jour, Nathalie, Jarnot et Wilhelm étant réunis, Nathalie prit la parole. « Vous êtes pensif, Jarnot. Je l'observe depuis quelque temps. »«
Je le suis, » répondit-il.
« J'ai devant moi une importante affaire que nous préparons depuis longtemps et qu'il faut nécessairement entreprendre sans retard. Vous en avez déjà une idée générale et je puis bien en parler devant notre jeune ami, car il ne tient qu'à lui d'y prendre part, s'il lui plaît. Je ne tarderai guère à vous quitter. Je suis à la veille de passer en Amérique. »
« En Amérique ? » dit Wilhelm en souriant.
« Je n'aurais pas attendu de vous une pareille équipée, et moins encore que vous me choisissiez pour compagnon. »
« Quand vous connaîtrez tout notre plan, vous lui donnerez un nom plus favorable, et peut-être en serez-vous charmé. Écoutez-moi. Il suffit de connaître un peu les affaires du monde pour observer que de grands changements nous menacent et que, presque nulle part, la propriété n'est désormais bien sûre.
Je n'ai pas une idée bien claire des affaires du monde, repartit Wilhelm, et c'est d'hier seulement que je m'inquiète de mes propriétés. Peut-être aurais-je bien fait de n'y pas songer de longtemps encore, car je vois que le souci de les conserver engendre la mélancolie. Écoutez-moi jusqu'au bout. Il convient que l'âge mûr prenne du souci, afin que la jeunesse puisse être quelque temps insouciante. L'équilibre des actions humaines ne peut malheureusement se maintenir que par des contrastes. Il n'est rien moins que prudent aujourd'hui d'avoir toutes ses propriétés dans un même lieu, de confier tout son argent à la même place. Et d'un autre côté, il est difficile d'étendre à plusieurs lieux sa surveillance. En conséquence, nous avons formé un autre plan. De notre vieille tour sortira une société qui se répandra dans toutes les parties du monde et à laquelle, de toutes les parties du monde, on pourra se faire agréger. Ce sera une assurance mutuelle, pour le cas seulement où une révolution politique dépouillerait complètement de ses propriétés tel ou tel des associés. Je vais passer en Amérique pour mettre à profit les bonnes relations que notre ami a formées pendant son séjour dans ce pays. L'abbé se rendra en Russie, et s'il vous convient de vous joindre à nous, vous aurez le choix de me suivre ou de rester près de Lothair pour le seconder en Allemagne. J'espère que vous prendrez le premier parti, car un grand voyage est infiniment utile à un jeune homme. » Wilhelm se recueillit un moment et répondit « L'offre mérite une sérieuse attention, car ma devise sera bientôt « le plus loin et le mieux ». Vous me ferez connaître, j'espère, votre plan avec plus de détails. Cela peut tenir à mon ignorance du monde, mais il me semble qu'une pareille association doit rencontrer des difficultés insurmontables. » « Dont la plupart ne pourront être levées, repartit Jarnot, que parce que nous sommes encore peu nombreux, honnêtes, habiles, résolus et animés de l'esprit public, source unique de l'esprit d'association. » Frédéric, qui n'avait fait jusque-là que prêter l'oreille en silence, s'écria soudain « Et si vous m'encouragez, je pars avec vous. » Jarnot secoua la tête. « Que trouvez-vous à dire en moi ? » poursuivit Frédéric. «
À une jolie colonie, il faut de jeunes colons, et je vous en amènerai. De joyeux colons aussi, je vous assure. Et je sais encore une bonne jeune fille, qui n'est plus ici à sa place, la douce et charmante Lydie. Que deviendra la pauvre enfant, avec sa douleur et sa détresse, si elle ne peut les jeter au fond de la mer dans la traversée, et si un brave homme ne prend pitié d'elle? Il me semble, mon jeune ami, puisque vous êtes en train de consoler les filles délaissées, que vous devriez vous résoudre. Chacun prendrait sa belle à son bras et suivrait le vieux maître. » Wilhelm fut blessé de cette proposition. Il répondit avec une feinte tranquillité « Sais-je seulement si elle est libre? Comme je ne semble pas heureux dans mes projets de mariage, je ne voudrais pas faire une pareille tentative. » Nathalie prit la parole. « Tu crois, Frédéric, parce que ta conduite est légère, que tes sentiments peuvent convenir à d'autres. Notre amie mérite un cœur de femme qui lui appartienne tout entier. » Qui, à ses côtés, ne soit pas ému de souvenirs étrangers. C'est seulement avec la haute raison et le caractère pur de Thérèse que l'on pouvait conseiller une chose si hasardeuse.
« Une chose hasardeuse ? » dit Frédéric. « Tout est hasard dans l'amour, sous la feuillée comme devant l'autel, avec des embrassements ou des anneaux d'or, au chant des grillons comme au bruit des trompettes et des timbales. Tout est hasard. » Et la fortune mène tout.
J'ai toujours vu, reprit Nathalie, que nos principes ne sont que le supplément de notre vie. Nous aimons à couvrir nos défauts du voile d'une loi légitime. Prends garde au chemin où pourra te mener encore la belle dont tu es si passionnément séduit et qui te tient dans sa chaîne.
Elle est elle-même dans un très bon chemin, répliqua Frédéric.
Le chemin de la sainteté. Elle prend un détour, il est vrai, mais la route en est plus gaie et plus sûre. Marie-Madeleine l'a suivie, et qui sait combien d'autres. Au reste, ma sœur, quand il est question d'amour, tu ferais mieux de ne rien dire. Tu ne te marieras, je le crois, que lorsqu'il manquera quelque part une fiancée, et tu te donneras alors, avec ta bonté accoutumée, comme supplément d'une existence. Laisse-nous donc conclure notre traité avec ce marchand de chair humaine et nous entendre sur nos compagnons de voyage.
Vos propositions viennent trop tard, dit Jarnot. Lydie est déjà pourvue.
Comment donc?
Je lui ai proposé ma main.
Mon vieux monsieur, dit Frédéric, vous faites là un trait pour lequel, si on le considère comme un substantif, on pourrait trouver divers adjectifs, et conséquemment divers attributs, si on le considère comme sujet.
J'avoue sincèrement, dit Nathalie, que c'est une dangereuse tentative de s'attacher une jeune fille dans le moment où l'amour qu'elle a pour un autre la réduit au désespoir.
J'en cours le risque, répondit Jarnot. Sous certaines conditions, elle m'appartiendra. Et croyez-moi, il n'est rien de plus précieux au monde qu'un cœur capable d'amour et de passion. Que ce cœur ait aimé, qu'il aime encore, cela ne m'arrête pas. L'amour dont un autre est l'objet me charme peut-être plus encore que celui qui me serait voué. Je considère la force, la puissance d'un noble cœur, sans que l'égoïsme gâte pour moi ce beau spectacle.
« Avez-vous parlé à Lydie ? » demanda la baronne.
Jarnot fit, en souriant, un signe affirmatif. Nathalie secoua la tête et dit en se levant « Je ne sais plus que penser de vous, mais, à coup sûr, vous ne me tromperez pas. » Elle allait sortir quand l'abbé entra, une lettre à la main, et lui dit « Restez, je vous prie, j'ai à faire ici une proposition pour laquelle vos conseils seront bienvenus. » Le marquis, ami de votre oncle, que nous attendons depuis quelque temps, est sur le point d'arriver. Il m'écrit que la langue allemande ne lui est pas aussi familière qu'il l'avait cru, qu'il a besoin d'un compagnon de voyage, qui possède bien cette langue et quelques autres. Comme il désire former des relations scientifiques, bien plus que politiques, un pareil interprète lui est indispensable. Je ne connais personne qui lui convienne mieux que notre jeune ami. Il sait plusieurs langues, il a des connaissances variées, et ce sera pour lui un grand avantage de voir l'Allemagne en si bonne société et dans des conditions si favorables. Qui ne connaît pas sa patrie n'a pas de terme de comparaison pour juger sainement les pays étrangers. Qu'en dites-vous, mes amis? Qu'en dites-vous, Nathalie? Personne n'eut d'objections à faire. Jarno lui-même ne parut point considérer comme un obstacle son projet de voyage en Amérique, d'autant qu'il ne songeait pas à partir de sitôt. Nathalie garda le silence, et Frédéric cita diverses maximes sur l'utilité des voyages. Wilhelm fut, dans le fond du cœur, tellement irrité de cette proposition qu'il eut de la peine à le dissimuler. Il ne voyait que trop clairement qu'on s'entendait pour se délivrer de lui le plus tôt possible, et, ce qu'il y avait de pire, on le laissait voir sans mystère, sans ménagement. Le soupçon que Lydie lui avait inspiré, et tout ce qu'il avait éprouvé lui-même, se réveilla dans son âme avec une vivacité nouvelle, et la manière naturelle dont Jarno lui avait tout expliqué ne lui sembla non plus qu'un artificieux étalage. Il se recueillit un moment et il répondit « Cette proposition mérite en tout cas un mûr examen. » « Une prompte décision serait nécessaire, » répliqua l'abbé. « Je n'y suis pas préparé maintenant. Attendons l'arrivée du marquis, et nous verrons alors si nous pouvons nous convenir. Mais il faut d'abord qu'on accepte une condition essentielle. C'est que j'emmènerai Félix, et pourrai le conduire partout avec moi. »
« Cette condition sera difficilement accordée, » reprit l'abbé.
Et je ne vois pas pourquoi je me laisserai prescrire des conditions par qui que ce soit. Et s'il me plaît de visiter un jour ma patrie, pourquoi j'aurais besoin de la compagnie d'un Italien?
Parce qu'un jeune homme a toujours des raisons pour s'attacher à une compagnie, répondit l'abbé d'un air imposant.
Wilhelm, qui sentait bien qu'il n'était pas en état de se posséder plus longtemps, car la seule présence de Nathalie le calmait encore, repartit avec quelque précipitation.
Qu'on me laisse encore un peu de réflexion. Je présume qu'il sera bientôt décidé si j'ai des raisons pour m'attacher encore, ou si, au contraire, le cœur et la raison ne m'ordonnent pas absolument de briser tant de liens, qui me menacent d'une éternelle et misérable servitude. »
Il avait dit ces mots avec une vive émotion. Un regard adressé à Nathalie lui rendit quelque tranquillité, car en ce moment où la passion l'agitait, la beauté et le mérite de cette jeune dame firent sur lui une impression plus profonde que jamais.
« Oui, se dit-il lorsqu'il se trouva seul, avoue que tu l'aimes et que tu sens encore une fois ce que c'est qu'aimer avec toutes les forces de son âme. C'est ainsi que j'aimais Marianne, qui fut victime de mon affreuse erreur. J'aimais Philine et je dus la mépriser. J'estimais Aurélie et je ne pus l'aimer. J'honorais Thérèse et l'amour paternel se transforma en inclination pour elle. Et maintenant que tous les sentiments qui peuvent rendre l'homme heureux se réunissent dans mon cœur, maintenant je suis forcé de fuir. Pourquoi faut-il qu'à ces sentiments, à ces convictions, s'associe l'irrésistible désir de la possession? Et pourquoi, sans la possession, ces convictions, ces sentiments détruisent-ils absolument toute autre félicité? Pourrais-je, à l'avenir, jouir de la lumière et de l'univers, de la société ou de tout autre bien? Ne me dirais-je pas toujours « Nathalie n'est pas là ». Hélas, et Nathalie me sera pourtant toujours présente. Si je ferme les yeux, elle s'offrira à ma pensée. Si je les ouvre, je verrai son image errante devant chaque objet, comme les apparences que laisse dans notre œil une image éblouissante. Déjà, la figure fugitive de l'Amazone n'était-elle pas sans cesse présente à ma pensée? Et je n'avais fait que la voir, je ne la connaissais pas. Maintenant que je la connais, que j'ai vécu dans son intimité, qu'elle m'a témoigné tant d'affection,
Ses qualités sont aussi profondément gravées dans mon cœur que son image le fut jamais dans ma mémoire. Il est cruel de chercher toujours, mais bien plus cruel encore d'avoir trouvé et d'être forcé d'abandonner. Que puis-je encore demander au monde? De quoi devrais-je me soucier? Quel pays, quelle ville renferme un trésor comparable à celui-là? Et il faudra que je voyage pour trouver toujours moins que je ne laisse? La vie n'est-elle donc qu'une arène où l'on doit soudain revenir sur ses pas dès qu'on touche à l'extrémité? Et le bon, l'excellent, est-il comme un but fixe, invariable, dont il faut s'éloigner en toute hâte, aussitôt que l'on croit l'avoir atteint? Tout homme, au contraire, qui recherche des marchandises terrestres, peut se les procurer dans les différents climats, ou même à la foire et au marché. « Viens, cher enfant, » dit-il à Félix, qui s'élança vers lui dans ce moment. « Tu seras tout pour moi. Tu me fus donné en dédommagement de ta mère bien-aimée. Tu devais me tenir lieu de la seconde que je t'avais destinée. Tu auras maintenant un vide plus grand encore à remplir. Occupe mon cœur, occupe mon esprit par tes charmes, ton amabilité, ton désir d'apprendre et tes jeunes facultés. » L'enfant s'amusait d'un nouveau joujou. Le père prit la peine de le perfectionner, de le rendre plus régulier, plus propre à son usage, mais au même instant, l'enfant perdit l'envie de s'en amuser. « Tu es un homme aussi !» s'écria Wilhelm. « Viens, mon fils, viens, mon frère, allons jouer sans but dans le monde, aussi bien que nous pourrons. » Sa résolution de s'éloigner, d'emmener son fils avec lui et de chercher des distractions dans le spectacle du monde, était désormais bien arrêté. Il écrivit à Werner, lui demanda de l'argent et des lettres de crédit, et lui dépêcha le courrier de Frédéric, avec l'ordre express de revenir promptement. S'il était fort mécontent de ses autres amis, rien n'avait altéré son affection pour Nathalie. Il lui confia son projet. Elle reconnut, comme lui, qu'il pouvait et qu'il devait s'éloigner. Et bien qu'il fût affligé de son indifférence apparente, sa présence et ses manières aimables le rassurèrent complètement. Elle lui indiqua différentes villes qu'elle lui conseillait de visiter pour y voir quelques-uns de ses amis. Le courrier revint et remit à Wilhelm ce qu'il avait demandé. Mais Werner ne paraissait pas satisfait de cette nouvelle excursion. « Mon espérance de te voir raisonnable, lui écrivait-il, est de nouveau et pour longtemps ajournée. Où donc vous promenez-vous tous ensemble? Où s'arrête cette dame dont tu me promettais l'assistance pour la gestion du domaine? Tes autres amis ont aussi disparu. Tout roule maintenant sur le bailli et sur moi. Heureusement, il est aussi bon jurisconsulte que je suis bon financier, et nous sommes tous deux accoutumés au travail. Adieu, il faut te pardonner tes extravagances, puisque sans elles, notre position dans ce pays n'aurait pu devenir aussi avantageuse. » Wilhelm était donc en mesure de partir, mais son cœur était encore lié par une double chaîne. On ne voulait absolument lui laisser voir les restes de Mignon que le jour des funérailles, dont l'abbé n'avait pas encore achevé tous les préparatifs. D'un autre côté, une lettre mystérieuse du pasteur de campagne avait appelé le médecin. Il s'agissait du joueur de harpe, dont Wilhelm désirait avoir des nouvelles précises. Dans cette situation, il ne trouvait, ni la nuit ni le jour, le repos du corps et de l'esprit. Quand tout le monde était livré au sommeil, il parcourait le château. La vue des œuvres d'art, qui lui étaient connues depuis longtemps, l'attirait et le repoussait. Il ne pouvait ni s'arrêter à ce qui l'entourait, ni le quitter. Chaque objet réveillait tous ses souvenirs. Il voyait d'un coup d'œil tout le cercle de sa vie. Mais, hélas, il le voyait brisé devant lui, et qui semblait ne vouloir jamais se reformer. Ces objets d'art que son père avait vendus lui paraissaient un symbole. Lui-même, il se verrait aussi exclu de la possession solide et tranquille de ce qui est désirable en ce monde. Il en serait dépouillé par sa faute ou par celle d'autrui. Il se perdait tellement dans ces bizarres et tristes méditations qu'il lui semblait quelquefois être lui-même une ombre, et même lorsqu'il touchait et palpait les objets extérieurs, il avait peine à surmonter son doute et se demandait s'il vivait encore. La vive douleur qui le saisissait quelquefois à la pensée qu'il devait abandonner si violemment et si nécessairement tout ce qu'il avait trouvé et retrouvé, ses larmes, enfin, lui rendaient seul le sentiment de son existence. L'heureux état dans lequel il se trouvait pourtant s'offrait en vain à sa mémoire. « Tout n'est rien, s'écriait-il, quand nous n'avons pas la chose unique qui donne du prix à tout le reste. » L'abbé annonça à la société l'arrivée du marquis. Il dit à Wilhelm « Vous êtes, je le vois, décidé à voyager seul avec votre enfant. Mais apprenez du moins à connaître cet homme, qui en tout cas ne vous sera pas inutile si vous venez à le rencontrer sur votre chemin. » Le marquis parut enfin. C'était un homme d'un âge encore peu avancé, un de ces beaux types lombards, d'une expression agréable. Dès sa jeunesse, il avait fait connaissance avec l'oncle, beaucoup plus âgé que lui, d'abord à l'armée, puis dans les missions diplomatiques. Plus tard, ils avaient parcouru ensemble une grande partie de l'Italie, et les objets d'art que le marquis retrouva dans le château avaient été la plupart achetés et procurés en sa présence, et au milieu d'heureuses circonstances qu'il se rappelait encore. Les Italiens ont en général un sentiment plus profond de la dignité de l'art que les autres peuples. Tout homme qui exerce quelque industrie veut qu'on l'appelle artiste, maître et professeur, et témoigne du moins par cette manie de titre qu'il ne suffit pas d'attraper quelques idées par tradition ou d'acquérir par l'exercice une certaine habileté. Il reconnaît au contraire que chacun doit être capable de raisonner sur ce qu'il fait, de poser des principes et d'expliquer clairement, et à lui-même et aux autres, les raisons pour lesquelles il faut procéder de telle ou telle façon. L'étranger fut ému de retrouver tant de belles choses, sans le possesseur, et il prit plaisir à entendre son ami lui parler, en quelque sorte, par la bouche de ses dignes héritiers. Ils parcoururent les divers ouvrages et trouvèrent une grande jouissance à pouvoir s'entendre les uns les autres. Le marquis et l'abbé dirigeaient la conversation. Nathalie, qui croyait se sentir encore en présence de son oncle, savait fort bien se retrouver dans les idées et les jugements qu'elle s'était faits. Wilhelm devait traduire pour lui-même, dans la langue du théâtre, tout ce qu'il voulait s'expliquer. On avait de la peine à contenir les plaisanteries de Frédéric dans de justes bornes. Jarnot était presque toujours absent. Comme on faisait observer que les ouvrages excellents étaient fort rares dans les temps modernes, « Il est difficile, dit le marquis, d'imaginer et de juger ce que les circonstances doivent faire pour l'artiste. Et puis, avec le plus grand génie, avec le talent le plus décidé, ce qu'il doit exiger de lui-même est infini. L'application dont il a besoin pour se développer est incroyable. Maintenant, si les circonstances font peu de choses pour lui, s'il observe que le monde est aisé à satisfaire et ne demande qu'une légère, agréable et facile apparence, on aurait lieu de s'étonner si la nonchalance et l'amour-propre ne l'arrêtaient pas dans la médiocrité. Ce serait une chose étrange qu'il n'aimât pas mieux échanger des marchandises à la mode contre de l'argent et des louanges que de suivre le droit chemin qui le mène plus ou moins à un misérable martyr. C'est pourquoi les artistes de notre temps offrent toujours pour ne donner jamais. Ils veulent toujours séduire pour ne jamais satisfaire. Ils se bornent à indiquer et l'on ne trouve nulle part la profondeur et l'exécution. Mais aussi, il suffit de passer quelque temps dans une galerie et d'observer quels sont les ouvrages qui attirent la foule, ceux qu'elle estime et ceux qu'elle néglige, pour trouver que le présent donne peu de satisfaction et l'avenir peu d'espérance.
Oui, dit l'abbé, et de la sorte, l'amateur et l'artiste se forment réciproquement. L'amateur ne cherche qu'une jouissance vague et générale. Il faut que l'œuvre d'art lui plaise à peu près comme une œuvre de la nature, et les hommes croient que les organes se forment d'eux-mêmes pour apprécier une œuvre d'art, ainsi que se forment la langue et le palais, et que l'on juge un tableau comme un ragoût. Ils ne comprennent pas qu'on a besoin d'une autre culture pour s'élever à la vraie jouissance des arts. Le plus difficile, selon moi, est l'espèce d'abstraction que l'homme doit opérer en lui-même s'il veut acquérir un développement général. C'est pourquoi nous trouvons tant de cultures exclusives dont chacune a pourtant la prétention de prononcer sur l'ensemble.
« Ce que vous dites là n'est pas bien clair pour moi, » dit Jarnot qui venait d'entrer.
« Il est difficile, » dit l'abbé, « de s'expliquer là-dessus avec précision en peu de mots. Je me bornerai à ceci. Aussitôt que l'homme prétend à une activité, à des jouissances diverses, il doit aussi être capable de développer en lui des organes divers, comme indépendants les uns des autres. Quiconque veut tout faire, tout sentir, avec sa personnalité tout entière, quiconque veut enchaîner pour une pareille jouissance tout ce qui est hors de lui, consumera son temps en efforts qui ne seront jamais satisfaits. Combien il est difficile, ce qui semble si naturel, de contempler un bon caractère, un excellent tableau, en lui-même et pour lui-même, d'écouter le chant pour le chant, d'admirer l'acteur dans l'acteur, de jouir d'un édifice pour son harmonie propre et sa durée. Nous voyons, au contraire, le plus souvent, les hommes traiter tout uniment de pures œuvres d'art comme si ce fût une molle argile. Il faudrait que le marbre modelé se transformât soudain au gré de leurs inclinations, de leurs opinions, de leurs fantaisies, que l'édifice aux fortes murailles s'étendît ou se resserra. On veut qu'un tableau instruise, qu'un spectacle corrige, que tout soit toute chose. Mais c'est proprement parce que la plupart des hommes sont eux-mêmes sans caractère, parce qu'ils ne peuvent donner à leur individualité aucune forme, qu'ils s'efforcent d'enlever leur forme aux objets, afin que tout devienne une matière mobile, incohérente, comme ils sont eux-mêmes. Ils finissent par tout réduire à ce qu'on nomme l'effet. Tout est relatif, et de la sorte, tout le devient réellement, à part la déraison et l'absurdité, qui règnent en effet d'une manière absolue.
« Je vous comprends, » reprit Jarnot. « Ou plutôt, je vois fort bien comment ce que vous dites se lie aux principes auxquels vous êtes si fortement attaché. Mais je ne puis être aussi rigoureux que vous avec la pauvre humanité. » Je connais assez de gens qui, en présence des plus grandes œuvres de l'art et de la nature, se souviennent d'abord de leurs plus misérables besoins, qui mènent avec eux leur conscience et leur morale à l'opéra, ne déposent point leur haine ou leur amour en présence d'une colonnade, et se hâtent de rapetisser le plus possible à la mesure de leur conception. Les meilleures et les plus grandes choses qui leur sont produites, afin de pouvoir les relier jusqu'à un certain point avec leur propre nature. Chapitre 8. Le soir, l'abbé invita les amis aux funérailles de Mignon. On se rendit dans la salle du passé, que l'on trouva éclairée et décorée de la manière la plus saisissante. Les murs étaient revêtus presque entièrement de tapisseries bleues célestes, si bien qu'on ne voyait plus que le socle et la frise. Des flambeaux de cire brûlaient dans les quatre candélabres placés aux angles et dans les quatre plus petits qui entouraient le sarcophage au milieu de la salle. Alentour, quatre jeunes garçons, vêtus d'une étoffe bleue céleste, lamée d'argent, balançaient de larges éventails en plumes d'autruche, comme pour agiter l'air autour d'une figure qui reposait sur le sarcophage. Dès que la société fut assise, deux cœurs invisibles demandèrent avec un chant mélodieux « Quel hôte amenez-vous dans notre paisible société ?» Les quatre jeunes garçons répondirent d'une voix douce « Nous vous amenons un ami fatigué. Laissez-le reposer parmi vous, jusqu'au jour où les cris de joie de ses frères célestes viendront le réveiller. » Le cœur. « Oh, toi, les prémices de la jeunesse dans notre société, sois la bienvenue avec larmes et douleurs. Que nul adolescent, nulle jeune fille ne te suive, que la vieillesse seule s'approche, calme et résignée, de notre salle muette, et que l'enfant, la chère enfant, repose dans cette grave assemblée. » Les jeunes garçons. Ah, comme avec regret nous l'avons amenée, hélas, et elle doit rester ici. Restons aussi, pleurons, pleurons près de son cercueil. Le cœur. Voyez ses ailes puissantes, voyez cette robe pure et légère, comme la bandelette dorée brille autour de sa tête. Quelle grâce, quelle dignité dans son repos. Les jeunes garçons. Hélas, ses ailes ne l'enlèvent point, son vêtement ne voltige plus dans les jeux légers. Quand nos mains couronnaient son front de rose, elle nous regardait d'un air caressant et doux. Le cœur. Regardez en haut avec les yeux de l'esprit, qu'elle vive chez vous, la force créatrice, qui emporte au-delà des étoiles ce qu'il y a de plus beau, de plus sublime, la vie. Les jeunes garçons. Hélas, notre compagne nous manque ici-bas. Elle ne se promène plus dans les jardins, elle ne cueille plus les fleurs de la prairie. Pleurons, nous la laissons ici. Pleurons et restons auprès d'elle. Le cœur. Enfants, retournez dans la vie, que la fraîche brise qui se joue autour du ruisseau vagabond essuie vos larmes. Dérobez-vous à la nuit. Le jour et le plaisir et la durée sont le partage des vivants. Les jeunes garçons. Allons, retournons dans la vie, que le jour nous donne travail et plaisir, en attendant que le soir nous amène le repos, et que le nocturne sommeil nous restaure. Le cœur. Enfants, hâtez-vous, montez le chemin de la vie, que, sous le pur vêtement de la beauté, l'amour vienne à vous avec son regard céleste et la couronne de l'immortalité. Les jeunes garçons sortirent. L'abbé se leva de son siège et s'avança derrière le cercueil. Il parla en ces termes. C'est la volonté de l'homme qui a préparé cette paisible demeure que tout nouvel hôte soit reçu avec solennité. Après lui, fondateur de cet édifice, créateur de cet asile, nous y avons apporté d'abord une jeune étrangère, et cet espace étroit renferme déjà deux victimes, bien différentes, de la sévère, capricieuse, inexorable déesse de la mort. Nous entrons dans la vie selon des lois certaines. Ils sont comptés les jours qui nous préparent à voir la lumière, mais la durée de la vie n'a point de loi. Le fil le plus délicat s'allonge d'une manière inattendue, et le plus fort est violemment coupé par les ciseaux d'une parque qui semble se plaire au contraste. Nous ne pouvons dire que peu de choses de l'enfant à qui nous donnons ici la sépulture. Nous ignorons encore son origine. Nous ne connaissons point ses parents, et nous ne pouvons que présumer le nombre de ses années. Son âme profonde, concentrée, nous laissait à peine deviner ses plus importants secrets. Rien de clair, rien de manifeste chez elle que son amour pour l'homme qui la délivra des mains d'un barbare. Cette tendre affection, cette vive reconnaissance, semble avoir été la flamme qui a consumé les sources de sa vie. Les soins habiles du médecin n'ont pu conserver cette belle existence, ni l'amitié la plus vigilante l'a prolongée. Mais si l'art n'a pu enchaîner l'âme qui s'exhalait, il a déployé toutes ses ressources pour conserver le corps et le dérober aux ravages du temps. Un baume a pénétré dans toutes les veines et, au lieu de sang, colore ses joues sitôt pâlies. Approchez, mes amis, et voyez la merveille de l'art et des soins. » L'abbé souleva le voile et l'on vit l'enfant couché avec son costume d'ange, comme endormi dans l'attitude la plus gracieuse. Tous approchèrent et admirèrent cette apparence de vie. Wilhelm seul resta sur son siège. Il ne se possédait plus. Ce qu'il sentait, il n'osait s'y arrêter, et chaque pensée déchirait son cœur. L'abbé avait parlé français, par égard pour le marquis. Le noble étranger s'approcha avec le reste de la compagnie, et il observait l'enfant avec attention. L'abbé continua. Ce bon cœur, si fermé aux hommes, était sans cesse tourné vers son Dieu avec une sainte confiance. L'humilité, et même un penchant pour l'abaissement extérieur, était chez elle comme un instinct. Elle était attachée avec zèle à la religion catholique, dans laquelle elle naquit et fut élevée. Elle exprima souvent le vœu secret d'être inhumée en terre sainte, et nous avons consacré, selon les usages de l'Église, ce sarcophage et le peu de terre que renferme son oreiller. Avec quelle ferveur, dans ses derniers moments, elle baisait l'image du crucifié, qu'un tatouage a dessiné artistement sur son bras délicat. En disant ces mots, l'abbé découvrit le bras droit de Mignon, et l'on vit, sur la peau blanche, un crucifix bleuâtre entouré de lettres et de signes divers. Le marquis observa de tout près ce nouvel objet. « Oh Dieu ! » s'écria-t-il en se redressant et levant les mains au ciel. « Pauvre enfant ! Malheureuse nièce ! Je te retrouve ici ! Quelle douloureuse joie de te retrouver, toi, à qui nous avions renoncé depuis si longtemps, de revoir, hélas, inanimé, mais du moins conservé, ce corps aimable et chéri que nous avions cru dévoré par les poissons du lac. J'assiste à tes funérailles, si honorable par l'appareil et plus encore par les nobles cœurs qui t'accompagnent au lieu de ton repos. Et, quand je serai en état de le faire, ajouta-t-il d'une voix entrecoupée, je leur en témoignerai ma reconnaissance. Ses larmes l'interrompirent. En pressant un ressort, l'abbé fit descendre le corps au fond du sarcophage. Quatre jeunes hommes, vêtus comme les quatre enfants, s'avancèrent de derrière les tapisseries, posèrent sur le tombeau le pesant couvercle orné de belles sculptures, puis ils chantèrent. Il est bien gardé maintenant, le trésor, belle image du passé. Il repose entier dans le marbre. Il vit, il agit encore dans vos cœurs. Retournez, retournez dans la vie. Emportez avec vous de saintes et graves pensées, car elles seules font de la vie l'éternité. Le cœur invisible répéta les derniers mots, mais personne n'écouta ces paroles édifiantes. Chacun était trop occupé de cette merveilleuse reconnaissance et de ses propres sensations. L'abbé et Nathalie emmenèrent le marquis. Thérèse et Lothaire emmenèrent Wilhelm, et ce fut seulement lorsque les chants eurent cessé de retentir que nos amis furent de nouveau assaillis avec violence par la douleur, les réflexions, les pensées, le désir de connaître, et regrettèrent l'asile qu'ils venaient de quitter.